En fait, généralement, tu mets une grille à rennes et tu évites que en fait elle ponde dans le cercle où tu veux récolter le miel. Mais là, l'objectif de ça, normalement, la reine aime bien pondre dans la cire qui est assez fraîche. Elle aime bien pondre dans la cire fraîche, donc du coup, le vœu que tu grandis par le bas, elle va descendre le couvent au fur et à mesure, et logiquement, toi, d'accord, tu peux récupérer le miel qui est plus haut. Mais c'est un peu plus long, et des fois, elle reste entre les deux, et tu peux pas forcément récolter. Quoi. Mais logiquement, c'est plus une ruche qui respecte entre guillemets le.
Déjà,
la biologie de l'abeille, quoi. Ouais.
Et déjà, là, il y a les 3 quarts, 5, 6e qui sont rentrés.
Oh oui, on dirait une fourmilière.
C'est un peu la même.
C'est une ruche.
C'est la même famille, hein, presque. Hein. Les abeilles et les fourmis sont très proches. Hein.
Alors, il faut savoir qu'on est quoi, 50 cm d'elle, de l'essaim.
Ouais. Moi, si je tends le bras, je peux toucher la ruche. Là. Et tu vois, à mon avis. Il y a un mélange, il y a des toutes petites noires, mais t'en vois aussi celles qui ont un peu plus de jaune, là, tu vois, comme celle-là.
Il y a aussi des grosses. C'est encore un mâle.
C'est un mâle, ouais. Tu vois, en fait, il a des gros yeux, des grandes antennes.
Ouais.
La reine, ça aura vraiment la même tronche en termes de tête qu'une ouvrière. C'est juste l'abdomen qui sera très gros. Mais tu vois, là, on voit bien leur petite glande
de
Et c'est là, celle-ci, elle a l'abdomen jaune, donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt la variété Buckfast. Et les apiculteurs aiment bien, parce que c'est des abeilles qui sont assez douces, qui supportent bien la manipulation, qui sont pas très agressives.
Il y en a une qui a du pollen plein les pattes, elle est rentrée.
Les cul en l'air, j'adore.
La ruche barrée, c'est une ruche que les apiculteurs traditionnels critiquaient un petit peu au départ. Qui n'est pas très pratique pour récolter du miel en fait. Mais on disait, oh, tu verras jamais la reine, machin, je l'ai vu à travers la vie une fois la reine, j'ai des vidéos de tout ça dans ma conférence. C'est assez sympa. Là, je peux rentrer et filmer.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas sur moi. Elle est partie?
Ouais, pas rien.
Il y en a une qui est vraiment.
Ça c'est bon. C'est plutôt le visage des fois qui me fait un petit peu peur. Quand elles viennent sur le bout du nez ou près des yeux.
Ouais. Moi j'avoue, je joue pas trop. Moi je me fais piquer ici, le lendemain je suis gonflé jusque là. J'ai une belle réaction.
Non, moi je sais que pas d'agressivité, pas de gestes brusques, que de la douceur et de la lenteur et normalement.
Mais en fait, tu vois, ça reste des animaux sauvages, on peut pas savoir ce qui s'est passé. Tu vois là, on se dit, oh l'essaim, il est au bord d'un chemin, tu te dis, bon bah il est de ce matin. En fait, quand tu vois la cire qu'il y a sur la branche, ça fait peut-être plusieurs jours qu'il est là. Et du coup, elles peuvent être un peu plus agressives, parce que vu qu'elle a commencé à construire de la cire.
Elle n'a jamais resté là comme ça.
Non, bah en fait, elle pourrait l'été. Mais à un moment donné, déjà, le poids de ce qu'elles vont charger dans les alvéoles aurait été trop lourd.
Ouais.
Et puis, en fait, elles ne peuvent pas passer l'hiver sans protection.
Ça fait manger, là.
Et est-ce que c'est comme les frelons? Les ouvrières meurent et les reines restent l'hiver.
Tu as une partie des ouvrières qui vivent aussi l'hiver. Et d'accord. Qui vivent plus longtemps. En fait, à cette époque-là, la vie d'une abeille, ça va être un mois à peu près. Et par contre, celles qui vont rester l'hiver et qui vont avoir le rôle de maintenir la chaleur dans la ruche, vont vivre plus longtemps.
D'accord. Bah dis donc, quasi tout le monde est rentré. Il reste plus que les petits bouts là-bas.
On a patienté jusqu'à ce que pratiquement toutes les abeilles soient entrées dans la ruche. Alex a fermé la ruche et l'a transportée à l'ENS de Reuilly qui se trouve à une quinzaine de kilomètres d'ici.
Spaß. Gehört euch.
C'était Possession de Compromat. Vous êtes bien sur Radio Biodive, l'émission qui parle de ta nature sur Principe Actif, et c'est le moment de l'espèce du mois.
Je suis la grenouille à grande bouche. Et toi, comment tu t'appelles ?
Alors, l'espèce du mois est le rossignol Philomèle.
Le rossignol ? Mais Luis Mariano, il a fait une chanson sur le rossignol. Tu veux que je chante ?
Oula, non. Le beau temps est arrivé, on va le garder un petit peu, s'il te plaît, Philippe. Alors, avec un nom particulier, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, bon, d'accord. Bon, en français, on l'appelle rossignol Philomèle. Rossignol viendrait du provençal rossinol, qui vient lui-même du latin lucignolus. Le L s'est transformé en R. Lucignolus, c'est le diminutif de lucinia, qui désigne un petit rossignol. Philomèle, alors voilà. Pour Philomèle, alors c'est particulier, Philomèle, on le trouve dans les transformations, dans les métamorphoses d'Ovide. C'est la fille, Philomèle, c'est la fille de Pandion. Pandion, c'était un roi d'Athènes. Et la pauvre Philomèle, elle a été violée par son beau-frère, et pour qu'elle ne parle pas, il lui a coupé la langue. Il vient, hein, et elle a cherché à s'en venger ensuite, il l'a poursuivie. Et pour que cette pauvre Philomèle échappe à la colère de son beau-frère, elle a été transformée par les dieux en rossignol. Alors Philomèle, on peut aussi analyser un peu son étymologie. Philo, c'est qui aime, et mel, c'est la mélodie. Donc Philomèle, c'est celui qui aime la mélodie. On le comprend pour le rossignol. En latin, c'est Lucinia megarynchos. Lucinia, comme on vient de le voir, désigne en latin le rossignol. C'est aussi un mot qui est associé au jeu, au plaisir, sans doute à cause du chant très agréable de cet oiseau. Megarynchos, méga, ça veut dire grand, rynchos, c'est le bec. C'est donc un oiseau au grand bec. Tiens, c'est surprenant, c'est pourtant un petit insectivore qui a un tout petit bec. Ah oui, mais c'est pour le distinguer de son cousin qui, lui, a un bec plus petit. Donc, Megarynchos, c'est parce qu'il a un plus grand bec que son cousin, le rossignol prunier. En anglais, on l'appelle Common Nightingale. Common, commun, le rossignol. Ben non, c'est un oiseau exceptionnel. Voyons. Alors, on va voir la suite. Nightingale, night, c'est la nuit. Gal, ça veut dire un chant. C'est un chant gay dans un vieil anglais. Donc, pour les anglais, c'est celui qui chante la nuit. Donc, là, je suis d'accord. Common, pas vraiment, mais voilà.
Alors, c'est vrai qu'il s'agit de l'un de nos rares passereaux de chez nous, à chanter régulièrement la nuit. Et d'ailleurs, je me demande bien quand est-ce que les mâles se reposent, parce qu'ils sont aussi très vocaux de jour.
Ah, effectivement. Mais le chant majestueux et sonore n'est pas sa seule caractéristique. Il y a aussi son aspect. Alors, c'est curieux parce que autant son chant est brillant, autant son physique est, on va dire, terne. Tu pourrais nous le décrire, Camille ?
Alors, bien sûr, il est très discret et ça, c'est dû à plusieurs choses. Donc déjà, il y a sa petite taille. Donc, il fait environ 16 cm de long, 24 cm d'envergure pour un poids d'environ 20 grammes. Donc, c'est vraiment un petit oiseau. Mais sa discrétion est surtout due à son pelage. Donc, comme tu l'as dit, terne, brun et qui peut être à nuances rousses. Et il a le dessous plutôt blanc. Enfin, un blanc pas très éclatant, mais plus blanc que le dessus. Et son croupion et sa longue queue sont plutôt roux foncé. Et d'ailleurs, lorsqu'il est actif au sol, il redresse sa queue à 90 degrés et peut faire penser à un gros troglodyte. Alors, quant à la femelle, elle est plus terne que le mâle, ce qui est tout à fait normal, pour ne pas se faire repérer par les prédateurs lors de la couvée. D'ailleurs, peux-tu nous parler un peu des prédateurs du rossignol ?
Ah bah les prédateurs, justement, c'est un peu lié à son milieu de vie. C'est un petit oiseau qui aime bien les fourrés épais, les lisières. Il aime particulièrement les zones un peu humides, près des ruisseaux, mais pas que. Un petit buisson, tout ça. Et il fait son nid en bas, assez bas. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que les prédateurs, tels que le renard, bien sûr, mais ça peut être aussi des corvidés, ça peut être le geai, ça peut même être des rats, et ben, ils vont repérer ce nid et ils vont pouvoir croquer, même les écureuils, ils vont pouvoir croquer toute la nichée.
Ah oui, malheureusement, mais heureusement, dans un sens, les parents peuvent élever deux nichées dans la saison. Une première vers avril-mai et une seconde entre fin mai et juin, donc c'est très rapproché. Il est possible que la femelle couve la seconde nichée tandis que le mâle finit de s'occuper des petits de la première couvée. C'est incroyable, non ? Un super travail d'équipe. Donc à chaque nichée, la femelle pond entre 4 et 5 œufs. L'incubation dure à peu près 13 jours. Les jeunes auront leur plumage au bout de 11 jours, mais ne deviennent autonomes qu'à l'âge de 3 semaines, 1 mois à peu près. Alors, il n'est pas rare que les jeunes quittent le nid avant de savoir voler, comme beaucoup d'autres oiseaux, mais pas de panique, les parents continuent de s'occuper d'eux jusqu'à ce que les petits volent de leurs propres ailes. Alors, on a déjà parlé de son nom, de ses atouts de chanteur et de camouflage, de la reproduction, mais que mange-t-il, ce petit oiseau ?
Ah ben, on a déjà donné un indice, il a un bec.
Un bec, ouais, assez pointu.
Donc, fin d'insectivore. Donc, il aime bien les insectes, mais aussi tous les invertébrés. Donc, tous les petits invertébrés, il en fait son régal. Et les fourmis, les cloportes, qui sont pas des insectes. Mais en automne, il y a un petit peu moins d'insectes et il ne néglige pas de manger quelques petites baies, quelques petits fruits et quelques graines. En fait, c'est à cause de ce régime alimentaire avec les insectivores qu'il est...
Migrateur, peut-être ?
Eh ben oui, migrateur ! C'est un grand migrateur. Il traverse les océans pour passer l'hiver au sud du Sahara. Alors, dans son physique, on peut voir qu'il a des grandes ailes, curieusement. C'est un petit oiseau discret, mais il a des grandes ailes. Et donc, c'est un très bon voilier. Et c'est un oiseau qui, comme on l'a vu, il chante la nuit, mais... pour migrer, il se déplace aussi la nuit. Il se déplace pas trop de jour, il se repose, il mange un peu, mais il vole la nuit. Ce qui fait qu'il passe pas mal invisible, il est invisible pour les ornithos pendant sa migration. Et voilà. Et la migration, évidemment, n'est pas quelque chose sans danger. Il y a pas mal de rossignols qui disparaissent pendant la migration.
Eh oui, il y a beaucoup de mortalité lors des voyages entre le mauvais temps, l'épuisement, le braconnage, etc. Mais pour l'instant, c'est une espèce qui reste commune et non menacée, mais il n'en reste pas moins qu'elle est protégée et très très sensible aux conséquences de la modernisation de l'agriculture sur son environnement. Alors, moralité de cette espèce, pour le voir, arrêtons de dormir.
Ah, tu veux dire pour l'entendre, parce que déjà de jour, c'est difficile de le voir, alors la nuit... une petite remarque, on dit souvent que le rossignol chante la nuit, et on sous-entend qu'il ne chante que la nuit. Comme tu l'as déjà dit, il chante aussi de nuit, mais il chante de jour aussi. Si on le remarque surtout la nuit, c'est parce que la nuit, la plupart des oiseaux ne chantent pas, à part nos vieilles copines les chouettes. De jour, son chant est masqué en partie par les autres chanteurs, merles, grives, pinsons, etc. Et donc, on le remarque moins, alors que la nuit, on peut admirer ce soliste virtuose.
Merci beaucoup.
Alors, maintenant, ça va être le moment de l'interview. Alors, il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon ami, c'est Bernard. Et Bernard, c'est quelqu'un qui fait partie de l'association Férus, dont nous parlions tout à l'heure. Férus, bon, il va nous expliquer ce que c'est, donc je ne vais pas vous le rappeler. Enfin, c'est une association qui défend les grands prédateurs. Et il va surtout nous parler d'une opération très intéressante à propos des loups. Il va nous parler de l'opération Pastoraloup. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour Philippe. Déjà, merci de m'accueillir dans ton émission. Bah, écoute, j'habite Compiègne dans l'Oise. Et depuis toujours, je suis passionné par la forêt, puisque à deux pas de ma ville et à deux pas de l'endroit où je suis né, il y a une grande forêt de 15 000 hectares où j'ai tout appris pratiquement de la vie. Et j'y ai beaucoup d'activités en lien avec la nature, même si ce n'est absolument pas mon métier. Mais j'ai toujours eu un attrait particulier pour les milieux sauvages. J'ai toujours été chercher un peu plus loin, effectivement, l'aventure, mais quand même en relation avec la forêt.
Tu fais partie de l'association Férus.
C'est ça. Férus est une association qui a une vingtaine d'années et qui se préoccupe de la cohabitation entre les activités humaines et les espèces de prédateurs que sont en France le loup, le lynx et l'ours. C'est essentiellement sur cette activité-là que cette association s'est développée. Elle est devenue reconnue pour ses qualités et son intermédiation entre justement les activités humaines et pastorales en particulier et la vie sauvage. Depuis le retour du loup, puisque pendant plus de 50 ans, le loup a été totalement absent du territoire français suite à son éradication par les autorités. Et il est revenu de lui-même à la recherche de nouveaux territoires par le Mercantour il y a un peu plus de 30 ans. C'est que Férus est une association qui a voulu justement trouver un terrain, une marge, comme l'on dit, une frontière qui puisse être acceptable à la fois pour les activités pastorales, donc l'élevage, ovin essentiellement, et la vie du sauvage et donc la vie des loups. Et ce programme s'est appelé Pastoraloup. Il associe comme cela dans le même nom les deux pôles de cet affrontement, et ce programme permet justement à des bénévoles comme moi de venir réellement garder la frontière et éviter qu'il y ait trop d'attaques ou pas d'attaques du tout, d'ailleurs c'est notre objectif, des loups sur les troupeaux de bergers et les troupeaux de brebis, mais gardés par les bergers qui sont souvent assez démunis face à ça.
Alors Bernard, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne Pastoraloup?
Alors pour un bénévole comme moi, l'objectif c'est donc d'être apte à aller pendant une semaine en autonomie et donc relativement seul, à proximité du troupeau ovin, dans la montagne, vraisemblablement, en tout cas la plupart des missions sont relativement isolées, par exemple à l'estive, pendant l'été, pendant que les brebis et les moutons sont laissés relativement isolés de la ferme et de la bergerie, et donc on les ramène avec le berger la nuit en protection avec les patous, dans un parc fermé, électrifié, et pour ce qui me concerne, donc j'assure la garde de nuit, c'est-à-dire que je suis à proximité, sous ma tente, seul, c'est un point important de la mission, il faut être effectivement à l'aise avec la solitude. Par contre, le milieu, évidemment, est extraordinairement beau et sauvage, et l'objectif, c'est de pouvoir faire de la prévention, donc régulièrement ou irrégulièrement, de faire des tours du parc, d'envoyer de la lumière dès qu'on observe quelque chose, des paires d'yeux, par exemple, voire du son avec un sifflet haute fréquence, pour effaroucher l'éventuel prédateur, qu'il concerne des renards ou des loups. On est là pour assurer la paix entre à la fois les espèces sauvages qui doivent aller du coup voir ailleurs, mais surtout le troupeau. On est là pour quand même compléter et aider les bergers et les bergères à pouvoir aller se reposer, parce que sans ça, ils sont malheureusement accaparés par cette activité-là tous les jours de la semaine et 24 heures sur 24. Donc c'est vraiment une mission presque de salubrité, parce qu'on souvent ils sont sous pression psychologique et on les aide quand même à se soulager de ça. Et nous, on assume une mission qui est finalement relativement simple, exigeante physiquement et psychologiquement, mais en pleine nature, donc passionnante.
Alors, quels sont les bergers qui peuvent profiter de ce dispositif ?
Alors, tous les bergers, à compter du moment où ils ont une volonté de trouver un compromis, donc une zone de respect mutuel avec le loup, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas anti-loup, parce que là on ne peut pas les convaincre, nous, d'aimer le loup ou de le supporter. Ils ont donc déjà une démarche de responsabilité par rapport à la présence de leur troupeau en pleine nature. Ils savent très bien que leurs troupeaux ont un impact. Ils veulent assurer pour cela des pratiques respectueuses de l'environnement, et inversement, ils veulent aussi que la société les aide. Donc la plupart des bergers, bergères ou éleveurs qui sollicitent Pastoral Loup ont déjà mis en place les principaux moyens de protection pour lesquels ils touchent des aides financières significatives. Le parc, ce qu'on appelle le parc électrifié, qui permet de garder les bêtes pendant la nuit, voire parfois aussi pendant la journée s'il est plus grand, où on les passe du parc de nuit au parc de jour. Et élément clé du dispositif, les fameux chiens de protection, les gros chiens blancs, les patous, bien connus des randonneurs et des promeneurs, qui effectivement sont la clé de voûte du dispositif, parce que eux, ils sont H24, ils réclament pas autre chose que d'avoir leur croquette du matin, et ils assurent cette permanence. Nous, on est là en complément pour avoir vraiment une fonction d'effarouchement. Le loup déteste la présence du bipède, bien plus que celle du patou. Il mettra pas en place les mêmes stratégies, et donc si les bénévoles sont présents, et c'est le cas pour l'instant depuis le début du programme, il y a vraiment une efficacité redoutable de prévention, donc, pour éviter les attaques des loups sur les brebis.
Et donc, comme tu l'as dit, il faut que les bergers ou les éleveurs fassent la demande.
Alors c'est une demande effectivement qui est très simple, parce qu'on n'est pas dans un cadre administratif avec des CERFA, avec des demandes, avec une validation.
Oui, c'est demandé à Férus, à l'association Férus.
Voilà, ils établissent un contact avec Férus. On a une chargée de mission, Fanny, qui s'occupe justement d'aller visiter l'élevage, sans fonction d'audit ou de contrôle, mais juste pour percevoir effectivement comment un bénévole présent, puisqu'elle nous connaît tous très bien, Fanny, comment un bénévole va pouvoir trouver un minimum de confort, parce que on essaye quand même de nous apporter un minimum de confort, au mieux un endroit dans lequel on va pouvoir s'installer, mais parfois il n'y en a pas, de l'eau quand on peut, de l'eau chaude idéalement, un point d'électricité ou pas, bref, le minimum qui permet effectivement d'assurer la présence humaine pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois consécutifs. On a des éleveurs qui toutes les semaines, puisqu'on fait une relève de bénévoles par semaine, toutes les semaines ont un nouveau bénévole qui arrive. Donc il faut aussi que ces éleveurs et ces bergers soient conscients qu'il va falloir qu'ils soient aussi coopératifs avec nous pour nous expliquer comment fonctionne leur troupeau, qu'ils nous présentent à leurs chiens, puisque la relation avec les patous, il faut qu'on en assume la responsabilité en leur absence. Les dangers éventuels du milieu, les endroits qui sont un peu cachés, dans lesquels le troupeau peut se mettre, et du coup on n'a pas de vue sur le troupeau, donc tous les trucs et astuces qui assurent justement la meilleure protection. Et c'est effectivement auprès de Férus que cette relation s'établit.
Super, c'est un beau travail. Alors ça doit être difficile d'être bénévole pour Pastoral Loup, non?
Comment
on peut faire? Est-ce que si on a des auditeurs qui veulent rejoindre Pastoral Loup, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Alors, il y a déjà peut-être un bon moyen pour se donner un peu l'impression. Il y a des vidéos disponibles, des reportages disponibles sur des chaînes de diffusion de vidéos qu'on ne peut pas citer, mais que tout le monde peut connaître par ailleurs.
YouTube.
Tu l'as dit. Eh bien, il suffirait par exemple de mettre Pastoral Loup dans la barre de recherche, et vous aurez, les auditeurs qui seraient intéressés, auront des reportages avec les témoignages, à la fois donc des bénévoles, et puis également évidemment les témoignages des éleveurs et des bergers sur ce qu'ils font. C'est un bon moyen de se donner envie de le faire. Après, nous organisons, Férus organise des sessions de stage au printemps et pendant l'été, puisque avant d'être, envoyé en mission pastorale, il faut faire une formation pendant laquelle on apprend l'essentiel de la vie d'un berger ou d'une bergère, et ça se passe au sein d'un élevage pilote qui est depuis très très longtemps partenaire de Pastoral Loup et qui aujourd'hui accueille les nouveaux. Et également, on a des interventions de l'Office français de la biodiversité, de la direction départementale des territoires qui aujourd'hui assure la relation opérationnelle, technique et les aides financières en particulier pour les éleveurs. On est formé, on rencontre d'anciens bénévoles en activité qui transmettent leur savoir-faire pour assurer l'envie d'y aller, parce qu'effectivement, ça reste quand même aussi une condition préalable. Il faut accepter l'idée d'être pendant une semaine tout seul, et tant qu'à faire, l'imaginer comme tel, sous la pluie ou dans une météo qui est relativement délicate, sans avoir tout le temps à se plaindre qu'on n'a pas sa douche du jour, qu'on n'a pas pu faire son thé, qu'on manque de temps pour dormir. C'est quand même des conditions de bivouac pendant une semaine, dehors, au pire, pour moi c'est au mieux dehors, parce que c'est génial de pouvoir bivouaquer à l'extérieur et dans des conditions qui sont quand même en confrontation avec la nature, quoi. Si on a peur de la nuit, si on a peur de marcher à la frontale autour d'un parc de nuit avec des patous qui crient et qu'on s'effraie quand on voit une paire d'yeux jaunes dans la lumière de la lampe torche, c'est certain que c'est pas évidemment favorable à prendre du plaisir, mais pour ma part et pour celle des autres bénévoles qui aujourd'hui sont sur le terrain, ça fait vraiment partie de nos semaines de bonheur au long de l'année.
Ok, donc c'est important d'avoir une formation. Et donc, tu connais les dates des prochaines formations ? C'est en mai, entre mai et l'été,
printemps,
c'est ça ?
Printemps-été, voilà. Printemps-été. Elles sont organisées dans les Hautes-Alpes, pas très loin de Gap, dans une exploitation qui, comme je le disais, a été vraiment la première.
Et ça dure une semaine.
Ça dure une semaine, effectivement.
Et après, on a le choix de faire partie des bénévoles qui interviennent ou pas.
Ouais, ça reste toujours gratuit. Il y a juste une contribution aux frais pour la semaine de formation de 100 €. Et à partir de là, ça reste toujours à la fois sur la base du volontariat. Il y a un certain nombre de candidats qui font cette formation d'une semaine et qui, à la fin, ne s'engagent pas plus. Parfois, il y a évidemment des contraintes d'agenda.
C'est dommage, mais ils ont quand même acquis des connaissances.
De toute façon, ils ont acquis des connaissances. On leur a transmis les valeurs de cohabitation et de respect de part et d'autre, puisque donc il est bien clair que la démarche de Pastoral Loup, mais aussi plus globalement la démarche de Férus, c'est pas du tout d'aller à l'opposition de tel ou tel, d'être pro ou anti quoi que ce soit. C'est d'essayer de vraiment de faire évoluer effectivement les consciences, et la formation a aussi cette vertu évidemment, pour qu'on se rende compte qu'il n'y a pas de mal ou de bien dans tout cela. Il y a une nécessité de cohabitation. Personne n'a de plan B, personne n'a de planète B, pas plus les loups que nous. Il faut qu'on trouve de nouveaux terrains de compromis sur le territoire.
Merci beaucoup Bernard.
Merci beaucoup Philippe, merci de ton accueil.